Vous le savez, dans le judaïsme, il n'y a pas de prosélytisme. Vous ne voyez pas des personnes juives vous demandant d'adhérer à leur religion qui vont de par les rues, et il est même très difficile de se convertir au judaïsme. En revanche, la question des enfants, évidemment, est centrale, parce qu'on ne peut être juif que par la descendance, si ce n'est pas par le fait d'être prosélyte, c'est le fait de la descendance. Et donc la question de la descendance, dans ce qu'on appelle la loi du Lévirat, ce que viennent de citer les Sadducéens, qui nous est inconnu, voilà, un homme épouse une femme qui décède sans enfant, elle doit épouser son beau-frère, etc. Donc c'est, pour nous, ça fait un peu curieux, mais parce qu'il y avait, le peuple élu doit continuer, et l'insistance sur les enfants. L'insistance sur les enfants, précisément pour que le peuple élu continue. Mais Jésus répond, cette loi du Lévirat, est-ce qu'elle existait même du temps de Jésus encore? Est-ce qu'elle était appliquée? On ne sait pas trop. Mais il répond, lui, avec la question du buisson ardent. En fait, derrière la question des Sadducéens, une question piège, il y a la question de la vie et de la vie éternelle. Qu'est-ce qui est source de vie? Est-ce que seulement la descendance, le fait d'avoir des enfants naturellement par l'union de l'homme et de la femme est source de vie, ou est-ce qu'il y a d'autres sources de vie? Et Jésus répond très habilement avec le buisson ardent. Il dit, regardez, quand Moïse était justement, il cite Moïse aussi, face au buisson ardent, vous vous rappelez, hein, je vous resitue le buisson ardent, hein, Moïse qui avait épousé la fille d'un prêtre païen, c'est intéressant, Jéthro, c'était son beau-père, qui était prêtre de Madian, donc païen, et qui paissait son troupeau, le troupeau de son beau-père, à un moment donné, il y a quelque chose qui attire son attention, il fait un détour, et il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Et du milieu du buisson, il entend, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, enlève tes sandales, car la terre où tu te trouves est une terre sacrée. Et il reçoit ensuite sa mission d'aller délivrer Israël, le peuple élu, de la main des Égyptiens. Je trouve ça intéressant que Jésus fasse allusion à ce passage de Moïse, parce que ça nous dit quelque chose de qu'est-ce qui est source de vie. Parce que la question que posent les Sadducéens, qu'est-ce qui est source de vie? Eux, ils ne croyaient pas en la résurrection, ils ne croyaient qu'en cette, la vie charnelle, mais qu'est-ce qui est source de vie pour nous? Et quand on contemple le buisson ardent, il y a des pistes. Je trouve que la première piste, quand Moïse est face à ce buisson ardent, c'est déjà enlève tes sandales. Quand on enlève les sandales, on a beaucoup cette tradition dans l'islam par exemple, c'est qu'on passe du profane au sacré. Le fait d'enlever ses sandales, c'est ça. C'est le signe, il y a quelque chose qui est différent entre l'extérieur et l'intérieur. En l'extérieur est un lieu profane, la rue, etc. Et on rentre, nous, dans un lieu sacré. Et au fond, les sources de vie, aussi le fait de reconnaître la présence du sacré dans notre vie. Quels sont, frères et sœurs bien-aimés, les lieux d'irruption du sacré dans votre vie? Comment est-ce que la présence du Seigneur se manifeste dans vos existences? Comment celui qui est source de vie, qui est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts, comment est-ce qu'il se manifeste en vous et vous permet d'avoir sa vie en vous? C'est le cas évidemment de l'Eucharistie. Chaque fois que nous communions, c'est cette vie de Dieu qui nous habite. Mais au-delà des sacrements, le Seigneur nous rejoint par son Esprit Saint, qui nous fait découvrir ce qui est vivant. Il nous veut des vivants. Et donc, quand Moïse enlève ses sandales de devant le buisson ardent, il reconnaît la présence d'une transcendance. quelque chose qui le dépasse, évidemment, un buisson qui brûle sans se consumer, ça ce n'est absolument pas habituel. C'est quelque chose de miraculeux, c'est une transcendance. Il y a quelque chose qui... Et je trouve que c'est là que se situe, je trouve, le cœur de notre propre vie, de découvrir dans nos existences la présence du Seigneur qui nous rejoint et qui nous porte, qui nous permet de porter du fruit. Parce que ce dont il s'agit, c'est la question de la fécondité. Ce dont parle la loi du Lévira, la loi sadducéenne, quelle fécondité pour nous ? Ben Moïse a dit, voilà, il faut épouser la veuve, le frère doit épouser la veuve, parce que s'il n'a pas d'enfant, et lui donner une descendance à son frère, c'est pas... Donc, c'est la question, de, à travers cette fécondité charnelle, dans la loi du Lévira, la loi de l'Ancien Testament, de façon plus profonde, c'est la question de la fécondité de nos vies. Où est-ce que nos vies portent du fruit, et du fruit en abondance ? C'est ça la vraie question. Et donc, de devant le buisson ardent, Moïse reconnaît la transcendance de Dieu. Je trouve que cette expérience de la transcendance de Dieu, cet émerveillement au fond qui est source de vie, il peut être présent, j'allais dire, à chaque instant. Tout dépend si nous sommes attentifs. Tout dépend la qualité de notre regard. Tout dépend comment nous-mêmes, nous allons intérieurement nous déchausser pour nous mettre en contact avec celui qui est le Dieu des vivants. Et puis, c'est aussi intéressant, ce qui est Dieu qui parle de dedans le buisson, et qui dit à Moïse, la terre où tu te trouves est une terre sacrée. Et ce n'est pas le buisson qui est une terre sacrée. C'est la terre où toi tu as les pieds qui est une terre sacrée. C'est-à-dire que toute terre sur laquelle nous marchons peut être un lieu de rencontre. Toute terre que nous foulons peut être un lieu de vie et de fécondité. Ça veut dire aussi qu'il n'y a, au rebours de ça, qu'il n'y a aucune circonstance qui puisse exclure que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. Il n'y a aucun lieu où le contact avec la vie éternelle, par la prière, par la grâce du Saint-Esprit, ce contact avec la vie éternelle dans la foi, n'est aucun lieu qui puisse être étranger, où on puisse dire non, dans ce lieu-là, il n'y a pas de contact. Non, parce que la terre où tu te trouves est une terre sacrée. Et le Seigneur le dit à Moïse, mais le Seigneur le dit à chacun. La terre où tu te trouves, là, quand chacun regarde ses pieds, c'est une terre de rencontre. C'est une terre où tu peux avoir une vraie expérience spirituelle. N'accusons pas les circonstances et les nécessités pour dire, voilà, je ne peux pas progresser spirituellement parce que j'ai trop de choses à faire, parce que ceci, parce que cela. Voilà, on accuse notre quotidien de parfois de justifier notre paresse spirituelle. Et dans le buisson ardent, c'est l'inverse. Il dit non, n'accuse pas le quotidien d'être à l'origine de ton manque de fécondité, mais reprends conscience que la terre que tu foules est une terre sacrée. Et je trouve que c'est tellement beau de dire que ensuite Jésus dit voilà, c'est cette terre sacrée, cette présence de la vie éternelle, elle est aussi manifestée, et c'est la grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, par ceux qui se consacrent dans le célibat. Ceux qui se consacrent dans le célibat, c'est ce que dit Jésus, voilà, mais ceux qui se consacrent et qui renoncent au fond à former une famille, ils vivent déjà de la vie éternelle. Et c'est quelque part dans leur incomplétude, parce que l'homme est fait pour la femme pour l'homme, et du coup, dans cette incomplétude, parce que dans leur chair, ils sont incomplets, c'est sûr, mais cette incomplétude est signe de quelque chose de plus grand, signe de la vie éternelle. Et je trouve ça intéressant de voir justement que Jésus, le célibat consacré n'existe que dans la foi chrétienne. Il n'y a pas d'autre religion sur la surface de la Terre qui reconnaît le célibat consacré comme un lieu de rencontre avec la vie éternelle. Ça n'existe pas. Nous sommes les seuls. Parce que seul le Christ lui-même, qui a vécu ce célibat, évidemment pour le royaume, pour le monde à venir, nous montre le chemin. Ça veut dire que, de façon plus habituelle, nous qui, dans l'immense majorité des cas, formés être en couple ou en famille, etc., ou avaient le désir de construire un couple, de dire quel est le lieu dans notre vie, quel est ce buisson ardent, quel est le lieu où on peut porter du fruit, où, d'une certaine manière, on ressent que cette terre-là ne nous suffit pas. Cette terre-là ne nous comble pas. Et vous le savez très bien que quand on est en couple, un des pièges, c'est de vouloir être comblé par l'autre. Ça, c'est le piège. Or, c'est intéressant, dans ce qu'on lit souvent dans les messes de mariage, vous avez entendu les noces de Cana, eh bien, au cœur même des noces, il y a un manque. Ils n'ont plus de vin. Et je trouve bien qu'au cœur même de chaque couple, il y a une incomplétude, même s'il choisit cette vie matrimoniale, il y a un espace que l'autre ne peut pas combler, et parce que justement, cet espace-là, c'est l'espace de la vie éternelle, c'est la présence de la transcendance, c'est cette, là où tu mets les pieds, c'est une terre sacrée, c'est cette terre sacrée de l'autre qui fait que l'autre restera toujours quelque part un mystère pour nous, parce que justement nous n'avons pas accès à toute la personne, à tout le mystère de la personne de l'autre. Il y aura toujours quelque chose qui manquera. Et même dans les amoureux les plus transis, il y aura toujours quelque chose qui fera que, parce que précisément l'autre ne peut pas combler mon cœur comme Dieu peut le combler, notre cœur n'a de repos, dit saint Augustin, tant qu'il ne repose en toi, Seigneur. Je trouve ça, c'est très beau de voir Jésus, en fait, il repose la question autrement avec le buisson ardent. Il pose la question à chacun d'entre nous, avez-vous pris conscience déjà qu'il y a un lieu en vous qui ne peut être rassasié que dans la contemplation du visage de Dieu? Nous venons de fêter la semaine dernière la Toussaint, que dans la contemplation du visage de Dieu, il n'y a que... Mais avez-vous compris en conscience aussi que ce lieu-là, vous pouvez l'habiter, si vous l'habitez, si vous descendez dans votre cœur profond, eh bien vous êtes dans un lieu de rencontre, parce que le buisson ardent, il n'est plus extérieur à nous-mêmes, le buisson ardent est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme dit le grand saint Augustin. Et on a comparé la Vierge Marie, par exemple, au buisson ardent. Le buisson ardent, voilà la Vierge Marie qui brûle de l'Esprit de Dieu sans se consumer. Et c'est ça qui va être source de vie. Est-ce que je vais bien de découvrir qu'en moi, il y a quelque chose qui ne pourra être rassasié que par le contact avec la transcendance? Que par le contact avec la transcendance. Il y a en moi quelque chose qui, au fond, dans cette terre, même dans des relations amoureuses les plus fortes, les plus authentiques, les plus puissantes, il n'y a quelque chose en moi que seul Dieu pourra combler. Et les personnes consacrées dans le célibat rappellent ça. Ce sont comme des poteaux indicateurs, rappellent que voilà, de cette terre, n'attendons pas ce qu'elle ne peut pas donner. De l'autre, n'attendons pas ce qu'il ou elle ne peut pas donner. Mais seul avec le Seigneur, si nous enlevons nos sandales, si nous passons de l'extériorité, de l'activisme à une intériorité, c'est-à-dire à une terre sacrée, là, je vais pouvoir découvrir un lieu de fécondité, de porter du fruit, et un fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, donc, je trouve que c'est vraiment tellement beau ce que nous dit Jésus, justement, à travers ce texte-là. Il remet évidemment les Sadducéens face à l'expérience originelle de Moïse qui a fait que cet appel qu'il a reçu, c'est à ce moment-là qu'il les remet. Il dit c'est le Dieu des vivants, cette source de vie. Rappelez-vous qu'elle est déjà en vous, si vous acceptez, non pas d'être dans une logique simplement de reproduction, voilà, voilà, il faut donner absolument une descendance, etc. Mais si vous êtes dans une logique intérieure, si vous remettez cette présence du Seigneur au centre, si vous la découvrez, si vous découvrez en vous ce buisson ardent qui brûle dans le cœur des saints, qui brûle dans le cœur de la Vierge Marie, et qui, par le baptême, brûle en nous aussi. C'est une expérience spirituelle. C'est l'expérience d'une présence. Ça veut dire enlever, passer du profane au sacré, c'est-à-dire toutes ces forces centrifuges qui nous emmènent loin de nous-mêmes, qui font que nous sommes peut-être les analphabètes de nous-mêmes, cette force centrifuge. Voilà, et bien à un moment donné, on dit stop. Ça, c'est pas le chemin. C'est pas ça qui va me faire porter du fruit. Au contraire, la conversion du cœur, c'est de revenir au centre, de découvrir en nous ce qui est cette présence du sacré. Et parce que j'ai la présence du sacré, eh bien, j'ai déjà, dans la foi, accès à la vie éternelle. Et je prends conscience que mes actes retentissent dans l'éternité. C'est énorme. Et nous sommes les seuls à croire ça. Mais c'est énorme. De cette terre, je construis l'éternité. Seuls les chrétiens, les disciples de Jésus, le croient. De cette terre-ci, parce que justement, Jésus a montré par sa présence que cette terre sacrée, c'est le cœur de chacun. Alors demandons au Seigneur cette grâce de l'intériorité. C'est un combat, parce que c'est sûr qu'on est pris de mille manières, on est voilà, dans un tourbillon, dans un activisme les uns les autres, et on est voilà, toujours avec notre portable, toujours avec, voilà, on sait très bien, on voit qu'il y a un combat. L'intériorité, c'est un combat. Hein. J'aime bien cette phrase de Bernanos, hein, qui dit... La société moderne a une haine contre toute forme de vie intérieure. À quoi c'est ça? La société moderne a une haine contre toute forme de vie intérieure. Et c'était en 1946, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Donc je trouve que c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une découverte, un chemin, une vraie conversion, cette conversion, se tourner vers. Demandons cette grâce au Seigneur, demandons cette grâce par l'intercession des saints et de la Sainte Vierge Marie. Amen.